Daniel, c'est Emmanuel. Écoute, je suis en train d'écouter ton émission. Moi, je suis corse. Et fais gaffe parce qu'il va y avoir un amalgame encore et ça va être difficile après à remonter. Hein. Donc, ce qui s'est passé ces derniers temps, ça concerne vraiment une toute petite partie de Corse, tu vois, qui font ça. Mais c'est... Fais attention.
Oui, bonjour, ici c'est Marie, Rocheville, des Alpes-Maritimes. Voilà, moi je voulais vous dire que depuis quelque temps je suis vraiment révoltée par ce qui se passe en Corse, parce que si ces individus connaissaient un peu l'histoire de leur pays, ils sauraient que les Corses ont toujours émigré, hein. Il y a eu des colonies du temps des Romains, il y en a eu en Espagne, même que Don Juan était Corse, il y en a partout, même de la famille au Venezuela, qui a émigré au début du 19e. Alors si ces gens-là avaient été très mal reçus partout, il y en a au Costa Rica, il y en a dans toute l'Amérique, il y en a aux États-Unis, vous pensez, là-bas, c'était des pays où à l'époque, je sais pas moi, ils ont été très bien reçus, ils ont fait souche, ils retournent et tout. Et puis j'ai remarqué que dans nos villages, parce que je suis d'un petit village de la Haute-Corse, il y avait des ouvriers italiens qui étaient venus, qui travaillaient dans ma famille. Il y en a un qui est arrivé à l'âge de 11 ans, venant d'Italie, qui a contribué, qui a toujours travaillé, que je considère comme mon troisième grand-père, hein, tant qu'on en est deux. Voilà, donc ce sont des tristes individus, ils connaissent rien à l'histoire de leur pays. C'est des petits cons, des petits mafieux. Donc je parle pas de la majorité des Corses dont je suis fier, mais cette minorité là, vraiment, ce sont des cons, des tristes individus. Ils me mettent hors de moi et vraiment. Et puis ils sont d'une bêtise inouïe. C'est vraiment, parce que pour expliquer que c'est une infime minorité, etc. Mais il y en a de trop. Puis ce qu'il y a de triste, c'est que la Corse est un petit pays. Tout le monde est cousin, si on compte tous les cousins, etc., etc. Donc il y a des familles où on a des individus comme ça. On sait, j'ai honte des fois, je n'ose même plus dire que je suis corse quand on entend des choses comme ça.
Bonjour ami Mermet, j'ai écouté l'émission concernant la Corse et le racisme. Et j'ai envie de dire, on a le droit de défendre ses racines, sa langue et sa culture, mais pas en se fermant, en se repliant sur soi-même. Il faut, me semble-t-il, au contraire, s'ouvrir au monde et respecter l'autre comme on voudrait qu'il nous respecte. Non au racisme, non à toutes les ségrégations, non au rejet de toutes les minorités. Au revoir. Adichat, Ikoucharté.
Oui, eh bien, 15 ans sans venir en Corse. La première fois que vous venez, vous parlez du racisme. C'est un peu difficile pour nous qui ne sommes pas du tout racistes. C'est aussi une réalité, le racisme dans notre île. Il y a une autre réalité, c'est le regard de l'autre, le regard de la France, le regard du colon. Et c'est très difficile d'être regardé au travers du prisme du racisme. Il n'y a qu'une chose qui m'a fait plaisir, c'est qu'en fait on n'entend pratiquement aucun témoignage raciste. Mais en fait, ça fait mal, quoi, de s'entendre dans une émission aussi progressiste que la vôtre, décrit pour la première fois en 15 ans, je le répète, un peu comme une bande de racistes, quoi. Parce que, j'en doute pas une seconde, vu de l'autre côté de la Méditerranée, les gens vont dire « Ah, vous voyez, les Corses, c'est quand même une sacrée bande de cons. » C'est toujours difficile d'être regardé par le colon. Voilà, c'était Gilles de Bastia, Association Le Poulpe, qui aurait voulu voir son île un peu différente. J'espère que la prochaine émission, ça sera pas sur ça, quoi.
Salut Daniel Mermet. J'ai écouté l'émission consacrée à la Corse, ou plus exactement au racisme anti-maghrébin en Corse. Je ne sais pas si c'est une volonté de votre part de dédramatiser des actes aussi abominables que des maisons, des magasins brûlés, tout simplement parce qu'ils appartiennent à des gens qui n'ont pas, entre guillemets, du sang corse, qui doit être sûrement d'une autre couleur que le rouge, sans compter les violences et les menaces à l'encontre des personnes maghrébines. D'ailleurs, dédramatiser des actes aussi ignobles qu'on n'a plus vu en France depuis les années 30 et 40, c'est ce qu'ont fait la plupart des médias français. Ils préfèrent... Il préfère dramatiser le voile qui n'a fait qu'attiser la haine anti-arabe qui existe malheureusement en France depuis la colonisation. Vu qu'à travers cette histoire de voile, on a vu et entendu des arabo-maghrébins d'associations qui dénonçaient d'autres arabes, ce qui a contribué également à légitimer tout ce qu'on voit aujourd'hui. Merci beaucoup, c'était Nadia d'Avignon. Au revoir.
Oui, salut Daniel, c'est Isabelle. Voilà, je t'appelle parce que je viens d'entendre ton émission sur la Corse. Et puis, ben maintenant, j'ai une boule au ventre. Cette boule, elle m'avait quittée, ça fait 5 mois que je l'avais plus, depuis que j'ai quitté la Corse. Et je l'ai eue pendant 3 ans, tout le temps où j'habitais en Corse. Alors, voilà, moi, je suis pas d'origine maghrébine, je suis juste continentale, une pinsoute. Je suis allée en Corse parce que j'avais du boulot avec mon mari et mes enfants. Et puis, arrivée là-bas, ben, j'ai découvert ben, le racisme non seulement anti-maghrébin, mais anti-continental, et puis parfois anti-sarde, quand certains jeunes ne savent plus sur qui verser leur haine. Voilà, moi, mon fils, eh bien, il était ado. Et puis, au bout de 2 ans, ben, il a fait une très grosse dépression avec tentative de suicide, parce que ben, tous les jours, on le traitait de sale colon et de sale gaulois. Alors, ben, on a été obligés de l'envoyer sur le continent, dans la famille. Et puis moi, dès que j'ai pu trouver un boulot, je suis repartie en disant à mon mari, bah, tu me rejoins quand tu peux, voilà. Et puis bah, depuis que je suis ici, bah, cette boule m'a quittée parce que là-bas, il y avait une pression. C'était infernal. Obligée de s'auto-censurer tous les jours. Moi, j'admire Noël Vincenzini de pouvoir parler parce que moi, je pouvais pas parler. De toute façon, j'étais pas corse. Et puis, j'en connais plein qui sont corse et qui osent pas parler, quoi. Voilà. Alors c'est vrai, comme elle disait, c'est peut-être des jeunes qui sont en manque de repères, en manque d'identité, parce qu'en fait c'est souvent des jeunes. Voilà, c'est pas les Corses ancrés dans leur terre, je pense, qui ont cette attitude-là. C'était des petits cons, des petits jeunes qui se disaient soi-disant nationalistes. Mais enfin, je pense que ça, ils pensaient peut-être que ça leur donnait une autre paire de couilles, mais je crois pas. Voilà. Depuis que je suis revenue ici, ben maintenant toute la famille est de retour. On a cette chape de plomb qui est partie et de nouveau on respire. Voilà, c'était un témoignage. Ben là-bas, j'ai rencontré des gens super quand même. Hein. Des gens très chouettes, mais il y a cette pression. Voilà. Salut.
Monsieur le maire de Calvi, vous ne le savez peut-être pas, mais il se passe des choses inquiétantes dans notre bonne ville de Calvi. Il y a 10 jours, dans la nuit du 8 au 9 novembre, des voitures ont été incendiées. Elles appartiennent à des Calvés d'origine marocaine et tunisienne. Ces actes racistes, donc d'ignorants, car il faut être qu'un ignorant pour être raciste et pour écrire Arabie Fora, nuitamment, courageusement, et ne pas savoir que toutes les cultures seront croisées, comme les populations d'ailleurs, au point que plus du quart des chromosomes d'un Français moyen est d'origine étrangère. Et tant mieux. Nous, Corses de différentes origines, sommes inquiets de voir nos murs salis d'insultes racistes, que l'on met si longtemps nettoyés. Nous sommes inquiets de constater que l'absence de réaction officielle de nos élus nous fait passer pour ce que nous ne sommes pas, et valide malheureusement ces actes d'imbéciles. Fin de l'acte 1. Hier soir, 22 novembre, nous étions plus d'une centaine réunis à Calvi pour clamer notre écœurement face à ces actes racistes. Et nous serons encore plus nombreux samedi prochain, le 25 novembre, à 14h, devant la sous-préfecture de Calvi. Les Corses ne sont pas racistes, mais il y a des racistes en Corse. Merci.
Allô, Mermé, t'es un salaud. Je savais pas que t'étais si salaud que ça. Hier, tu nous as infligé les chants corses. Pourtant, nous, on n'a rien fait, on n'est pas coupables. Pourquoi tu fais ça? J'ai trouvé la solution pour voir si les Maghrébins, ils sont vraiment corses. Faut leur passer des chants corses enfermés dans une salle pendant 48 heures. S'ils tiennent le coup, c'est des vrais corses. Mais nous, on n'y est pour rien. Arrête de nous infliger ça, Marmé. Nous, on est des simples auditeurs. Merci. Pense à nous. Compatis. À plus. Ciao.
Ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile de pas passer des gens corses aujourd'hui pour cette deuxième émission. Effectivement, sur ce malaise corse, sur cette vague de racisme en Corse, mais dans les messages que vous venez d'entendre, il y a à peu près toutes les facettes, toute expression de ce malaise. Et pour ma part, je m'en tiens à ce que disait cet auditeur qui dit les Corses ne sont pas racistes, mais il y a des racistes en Corse. Et effectivement, on annonce une manif à Calvi devant la sous-préfecture ce samedi prochain à 14h. C'est Antoinette d'Angélique qui nous a envoyé ce mail. Donc voilà, on repart aujourd'hui pour l'île de beauté jusqu'à 18h. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base. J'y suis, 01 56 40 37 37.
Je demande, s'il vous plaît, aux fidèles auditeurs, de Daniel Mermet de penser un peu à Carucara. Carucara, c'est le nom caraïbe de la Guadeloupe. J'ai bientôt 80 ans et j'ai vécu 12 années comme fonctionnaire à Carucara. C'est magnifique et ils sont en train de trembler. Ils sont dans le malheur. Pendant ces 12 années que j'ai passées là-bas, nous avons vécu 2 tremblements de terre, mais beaucoup moins graves, il semblerait, et une éruption de la Soufrière. Donc, vous voyez, je suis doublement touchée, puisqu'il y a des événements que j'ai vécu dans ma jeunesse, là-bas, au milieu des palmiers, du ciel bleu, du sable chaud, de tout ce qu'il y a, des flamboyants magnifiques, Carucara. Pensez à eux, ils sont pour l'instant dans le malheur, les pauvres. Et merci, je suis Paul.
Salut Daniel, c'est Nicolas, Saint-Didier sur Rochefort dans la Loire. Moi je voudrais parler d'un journaliste de Tahiti nommé Jean-Pascal Courreau, qui était rédacteur en chef d'un journal d'opposition et qui enquêtait sur les agissements de M. Floss. Ce journaliste a disparu en décembre 97 et la famille avait conclu un suicide. Et puis un homme a révélé le mois dernier qu'il avait été assassiné par des hommes du groupement d'intervention de la présidence de Gaston Floss. Et cet assassinat aurait été maquillé en suicide. Alors assassinat ou suicide? Il faut enquêter et ne pas laisser de doute sur des choses aussi graves. Alors nous demandons l'ouverture d'une enquête pour le respect de la liberté de la presse, avec le soutien de Reporters sans frontières. Vous pouvez avoir toutes les informations sur cette histoire sur le site soutienjpk.org. Voilà. En France, on n'assassine pas les journalistes. Merci.
Nous sommes de fidèles auditeurs de ton émission et nous connaissons l'intérêt que tu portes à la cause du peuple tchétchène. Aussi, nous voulons annoncer à tous qu'une soirée de soutien est organisée par le comité Tchétchénie-Loire-Haute-Loire et l'association Information Écologie de Saint-Just-Saint-Rambert, commune de la Loire, avec le groupe Erzou de Roanne. C'est une soirée découverte et partage. Le vendredi 26 novembre 2004, à 19h30, à Saint-Rambert, salle du prieuré, près de l'église. Avec danse tchétchène, témoignages, discussions, buffet et spécialités tchétchènes. Participation aux frais 10 euros. Nous appelons tous les forésiens à venir soutenir le travail entrepris par ces réfugiés qui ont eu le courage de s'organiser pour témoigner. Merci et grosse bise à tous. Raymond Hébert de Saint-Rambert et Françoise.
Bonjour, c'est Baptiste. C'est juste pour dire que c'était génial comme émission ce soir. Ah, bon, nouvel accompagnement dans la voiture, belle vision de l'accord et un petit bonjour au petit Antoine. Allez, bon courage.
Là, on vient de croiser, tu vois, plusieurs graffitis qui ont été faits il y a...
Là, sur le petit muret, il y avait
ouais, le petit muret, au col de Saint-Bastien, marqué Arabie Four.
À la peinture rose.
À la peinture rose, ça a été effacé, heureusement. Mais on le voyait encore quand même, hein, tu vois. Donc imagine les gens qui passent tous les jours, hein, les maghrébins, Arabie Four. Encore. Ouais, encore, tu vois. Ouais, une petite mesette à un moment donné, tu vois. Pratiquement tous les kilomètres, il y a marqué Arabie Four, hein, quand tu regardes bien. C'est régulièrement tagué Arabie Four.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Dilat et Bi. Ah oui, mais vous, c'est différent.
Flight number 2, arriving from New York.
Donc là, on arrive devant le magasin, la voûte décoration. Cadeau. Alors, Virginie Zeroual est en train de s'occuper d'une cliente. C'est un beau magasin. En plein centre-ville. Il est grand.
Il est assez grand, oui. 200 mètres carrés, c'est pas mal, ouais.
Donc, la vitrine, là, c'est ici que ça s'est passé?
En fait, on a des rideaux, tu vois, des rideaux métalliques. Et puis, ben, il y a eu 5 coups de chevrotine dans la vitrine, dans la nuit du 4 au 5 octobre. Quand tu détruis 2 belles vitrines, ça marque, quoi. Mais bon, on a tout refait, regarde là, c'est super.
Bah là, il y a plus rien quoi. Si n'importe qui passe devant, on sait pas ce qui s'est passé.
Non, c'est fini. Jusqu'à la prochaine.
De beauté, île d'amour ou bien pays de fachos, mafieux, violents, débiles, racistes et consanguins avec cette emmerdante musique. Les Corses sont habitués à la caricature, si toutefois on peut s'y habituer à ce point-là. Et c'est vrai qu'on prend pas de gants pour stigmatiser, humilier le Corse en toute impunité. Avec le Corse, on peut se lâcher. Et le Corse a bien raison de ne pas toujours être content de la façon dont on le représente et dont on parle de lui. Sauf que là, quand même, la vague de violence raciste, c'est pas de la rumeur, c'est les Corses eux-mêmes qui s'insurgent et qui se lèvent et qui disent « Ah ouais, basta, ça suffit, pas un jour sans une attaque contre des Maghrébins ». Les statistiques du ministère de l'Intérieur placent la Corse en tête des violences racistes, les attentats contre les Maghrébins se multiplient au point que depuis 1999, des familles entières par dizaines quittent le beau pays de Tino Rossi. Alors, qui sait ? Ben, on nous dit, oh, ben, c'est des militants d'un groupuscule armé qui d'ailleurs a revendiqué ces attentats clandestini Rossi, et d'ailleurs ils sont arrêtés. Leur argument, c'est droga basta, c'est-à-dire à bas la drogue, au nom de la lutte contre la drogue. Cette bande de jeunes énergumènes, eh bien, casse du bougnoule. En principe, le mouvement nationaliste dénonce ce genre de groupuscule, mais le doute persiste et l'amalgame demeure. Depuis plus de 30 ans, les nationalistes chantent la chanson identitaire du peuple corse, défendre une langue et une culture face au jacobinisme pinsout, c'est bien beau. Défendre un petit peuple désespéré qui ne veut pas mourir, comme disait le bon amiral Sanguinetti, bravo, d'accord, personne n'est contre, sauf que la dérive ethnique n'est jamais loin et que la frontière n'est jamais nette entre la défense d'un pays, d'une culture, d'une langue, et puis le repli, et puis le rejet, et puis la xénophobie, et puis le racisme. Comment arrive la dérive ? Pour de multiples raisons, mais par exemple, citons au hasard le chômage. Quand l'emploi disparaît, quand les jeunes, même diplômés, n'ont pas de boulot, eh ben, on se tourne alors vers ces étrangers qui viennent manger le fromage des Corses. Les Corses n'ont pas le monopole de ce racisme, de cette imbécilité, de cette xénophobie, mais aujourd'hui, c'est là que ça se passe et c'est là que nous sommes, mais c'est là qu'il y a une préoccupation quand même très lourde. Alors, jusqu'à 18h, balade en Corse, c'est là-bas que j'y suis.
C'est toute une belle île miroira. Ne vege mon oibre, mais c'est zoué. En cousin sa veste, vers que les traîne. La ours est moi.
Ah oui, c'est la Micheline de Calvi, de l'île Rousse à Ajaccio, et on l'aime tous cette Micheline. Ça, c'est des belles images pour des gens qui adorent se balader en Corse et dont je fais partie, mais qui doivent bien avouer qu'ils ignorent à peu près tout des réalités sociales du pays. Et on a commencé là, devant le magasin de Virginie à l'île Rousse, Virginie et Jamel, oui, en Corse, rapprocher deux prénoms comme ça, c'est un peu bizarre, c'est un peu suspect, c'est un peu choquant. Et surtout, on n'ose pas trop parler de ce qui arrive. Virginie, elle ne se dégonfle pas, elle montre ce qui s'est passé. Son magasin a été plastiqué, d'une part, et d'autre part, il y a Jamel dans sa vie, et c'est un couple mixte, et c'est pas si facile que ça. On a vu hier déjà avec Marc et Samira, aujourd'hui Jamel et Virginie qui sont pas des on a vu hier aussi ces ouvriers maghrébins qui se planquent au fond de leur cahute au fond d'une vallée et qui sont attaqués. Non, là c'est pas du tout ça. Le magasin est à pignon sur rue et c'est une affaire qui marche bien. Cependant, les agressions racistes se multiplient aussi vers ce genre de cible.
Pour vous, c'est pas possible que ce soit parce que vous êtes un couple mixte qui réussit?
Non, je pense pas que ce soit couple mixte. Je pense que c'est la réussite, pas spécialement la mienne, mais c'est la jalousie de la réussite d'un maghrébin qui a réussi socialement et qui sont jaloux de ce qu'on a, mais on l'a pas volé, nous on travaille, je veux dire. Je vais pas me mettre moi dans un trou parce qu'il faudrait baisser la tête et être rien. Moi je suis pas rien, Jamal c'est pas rien, mes enfants c'est pas rien et...
Oh pardon, c'est pas grave Brigitte. Tu viens à la gym ou pas?
Pas du tout ma chérie, j'ai du boulot et après j'ai un chantier.
Ah, on vous propose d'aller à la gym là?
La gym, ouais, parce que ça m'arrive aussi de faire de la gym. Ah. Ça c'est ma meilleure amie. Elle est boulangère. Et elle a que des pâtissiers pratiquement maghrébins. Et donc, elle est aussi concernée par ce qui arrive, parce que c'est vrai que la population maghrébine actuellement, elle est un petit peu terrorisée, quoi. C'est des gens honnêtes, c'est des gens qui emmerdent personne. C'est le cas de mon mari, mais de plein d'autres. Je veux dire, mon mari, c'est pas un cas à part, hein. Il y a de la jalousie et il y a la haine un peu de l'autre aussi. La haine de l'étranger, la haine... Pourquoi c'est un arabe, quoi? Pourquoi c'est un arabe qui réussit?
Vous arrêtez pas de... C'est nerveux avec le stylo. C'est-à-dire que c'est tendu là.
Je suis tendue parce que je suis à l'extérieur. Et j'aime pas trop qu'on dise celle-là, voilà, son magasin il a eu ça, maintenant il y a des reporters et tout. J'ai pas envie de me montrer en façade, quoi.
Ouais. Bon, on va rentrer.
Voilà, c'est mieux. Les gens ont peur. Et il y a eu 30 ans de banalisation de la violence. Moi, mes enfants, le plus grand, il a 15 ans, le plus petit, il a 5 ans. J'ai pas envie qu'ils grandissent dans une société où on banalise des actes violents. Je veux pas.
Kappa.
Ouais, Kappa.
Kappa. La vanne.
Bon, fais des trucs que je fais, moi.
D'accord.
Vous travaillez ici, vous aussi?
Oui, je travaille ici. Je suis la vendeuse.
Vous appelez comment?
Fatia.
Vous êtes marocaine?
Oui, d'origine marocaine. Ça fait un petit bout de temps, je suis arrivée ici, j'avais 7 ans.
Et vous avez quel âge?
J'ai 20 ans.
Et ça fait combien de temps que vous êtes dans le magasin là?
4 ans que je travaille ici. D'abord j'ai commencé en stage et après maintenant je travaille, j'ai un contrat, un CDI et je travaille avec eux depuis 4 ans.
Voilà, ça c'est Fatia, vous avez compris, c'est elle, c'est Fatia, en CDI, vendeuse dans ce petit magasin. Voilà, tout va bien, sauf peut-être...
Voir des gens vivant ici se font traiter de sale arabe, de tout quoi, ça me fait mal, oui. Ça me fait très très mal parce que je me dis, je me sens concernée parce que je suis arabe aussi. Donc tout ce qui les touche, ça me touche aussi. En espérant qu'un jour la Corse changera, que ça deviendra tout comme avant. Parce qu'avant, il y avait du racisme, il y en avait beaucoup moins que maintenant. Maintenant, c'est un truc qui se développe de plus en plus. C'est des menaces physiques. Avant, c'était bon, vous marchez dans la rue, on vous traitait de sale arabe. C'était pas grave.
Ça vous est arrivé, vous, avant?
Comment c'est pas grave?
Non.
Bien sûr que c'est grave.
Mais ce que je veux dire, c'est les menaces. Maintenant, ils passent à l'action. Genre, ils frappent. Ça, c'est plus grave.
Vos parents, ils sont ici?
Ils sont ici, oui. Mes parents sont ici. Mon père, ça fait 30 ans qu'il est ici en Corse.
Il fait quoi?
Il est conducteur d'engin, chauffeur.
Et votre mère, elle travaille?
Oui, elle travaille. Elle travaille dans un hôtel qui est ici à Elrose, Santa Maria. Elle travaille depuis 2 ans. Elle est femme de chambre.
Ils ont déjà pensé à partir?
Non. Non, on pense pas à partir.
Il y a des familles qui ont quitté la Corse?
Beaucoup de familles, oui. Je sais qu'il y a beaucoup de familles. Nous aussi, on a beaucoup d'amis qui sont partis à Marseille. Il y en a qui sont partis. J'ai une amie qui est partie à Nîmes. Montpellier aussi, il y a beaucoup de gens qui partent, quoi. Ils disent que c'est à cause du racisme et qu'ils n'ont pas d'avenir ici, que ce soit eux ou leurs enfants. Ils disent qu'il n'y a pas d'avenir, quoi.
On estime à 300 familles le nombre de ceux qui sont partis, qui ont quitté l'accord depuis 1999, des familles d'origine marocaine et leurs enfants, et qui sont partis et qui effectivement s'installent dans le Gard. Et là, bon, c'est une terre d'accueil, mais il reste quand même un petit problème, c'est que, ben, en Corse, disent-ils, on était des Arabes, et ici, on devient des Corses. Rien n'est simple.
C'est vrai que notre liaison a défrayé la chronique quand même, ça. Je le sens par des réflexions, par des regards. Bon, maintenant on le sent moins parce qu'ils sont habitués, ça fait 20 ans. Mais au début, si tu veux, Jamal, l'arrivée du Maroc, donc il épouse la nana, qui a des thunes. Si tu veux, ça a été perçu un peu comme ça, tu vois. Donc ça fait mal.
Mais vous voyez, il y a un truc qui est superbe, c'est parce que c'était pas le Marocain qui travaillait, vous voyez, c'était le Marocain qui jouait au foot, le sport, vous voyez, c'était quelqu'un qui est connu par tout le monde,
la star locale.
Voilà, la star locale, on le respecte. Vous voyez, on vient le voir au match, on dit allez Jamal, ça vous ouvre beaucoup de portes. Toujours. Moi, ça fait 20 ans, j'ai jamais rien eu de. Et depuis 6 mois, là, c'est pas le climat encore, c'est pas terrible.
Et vous le ressentez, vous?
Oui, je ressens. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de, quand même, de maghrébins, qu'ils ont eu des problèmes, des trucs comme ça. Et ça, je le ressens, c'est normal, hein. J'espère que ça va s'arrêter. Quoi qu'il arrive, hein, je suis là, hein. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'ai mes enfants qui sont nés ici, ma femme elle est née là. C'est mon deuxième pays ici, la Corse.
Bon, je vous le souhaite pas, hein. Mmh. Votre corps, on l'enterre ici ou?
Non, mon corps, on l'enterre en Maroc. Si, un carré musulman, oui, je peux. Pas de problème.
Ah, c'est parce qu'il n'y a pas de carré musulman.
Il n'y a pas de carré musulman, oui, je crois pas. Pas El Rousse. Et ma Bastia, je crois pas. Tous les gens qui sont décédés ici sont partis au Maroc. Je crois pas qu'il y ait un carré musulman, je crois pas.
Avez-vous remarqué dans l'existence que les couples ne sont pas assortis? Car bien souvent, si la femme est immense, en général, le monsieur est petit. La femme à barbe épouse l'homme à imberbe, le gros la maigre et la maigre le gras. Le doucereux adore la femme acerbe, quoi qu'on en dise, moi je ne comprends pas ça. Car pour s'aimer, c'est très curieux, il n'y a pas de juste milieu. Oh non, mais je n'ai jamais compris l'amour. Il est souvent aveugle et sourd. Pas besoin de discours, on y revient toujours. Je n'ai jamais compris l'amour.
Je crois qu'à Sartène, on a parlé avec le maire de Sartène. En 30 ans, on est le deuxième mariage franco-maghrébin. Donc, c'est pratiquement inexistant, quoi. Bon, c'est quand même une petite ville, 3000 habitants. Mais c'est vrai qu'en fait, on a quand même des regards posés sur nous.
Voilà, nous revoilà chez Marc et Samira, avec le petit Antoine, le petit bébé qui dort près de sa boîte à musique, et qui s'appelle Antoine, hein. Elle c'est Samira, lui c'est Marc, on a quand même préféré que le bébé ait un prénom, Marc nous a expliqué ça hier, et un prénom quand même, qui fera qu'il n'aura pas de problème trop dans l'existence s'il reste dans l'île de beauté. Marc, je disais hier, il a 3 choses, il est corse, il est flic, il travaille dans la police, oui, il est flic, et puis il est communiste aussi, et puis il a une femme qui s'appelle Samira et qui est donc d'origine maghrébine. Alors là on est en train de charger, bien évidemment, encore une fois, je le répète, c'est pas les Corses, je reprends la formule de l'auditeur tout à l'heure, c'est pas les Corses qui sont racistes, mais il y a des racistes en Corse, et c'est pas forcément que d'un seul côté. Bien évidemment, il faudrait pas idéaliser, angéliser non plus la communauté maghrébine, le monde maghrébin est lui aussi traversé par les mêmes démons, souvent ceux qui sont l'objet de cette exclusion, de cette xénophobie, eux aussi, évidemment, il n'y a pas une humanité qui serait exempte de tout péché et de tout défaut, fût-elle victime
Le racisme, il est des deux côtés. Il y a quelques mariages de plus en plus maintenant franco-maghrébins, quoi. Et c'est pas légion, hein. C'est assez rare, quoi. Mais la chance que j'ai eue, je dirais moi, c'est que moi je suis tombé sur une famille vraiment laïque, pas du tout religieuse. On fait pas le ramadan. Ma femme ne fait pas le ramadan, on mange du porc, il n'y a pas de problème. Dire, tu sais, je crois que le Dieu, finalement, c'est dans le cœur. Je dirais que c'est au quotidien que tu fais le bien. C'est pas ce que je vois des gens qui vont à l'église, soit à l'église, à la mosquée ou à la synagogue, et qui mentent, qui volent. Je veux dire, il y a beaucoup d'hypocrisie dans la religion. Dans le sens où les religions, pour moi, sont liberticides au niveau de l'être humain. C'est un moyen avant tout politique.
C'est vrai que quand je parle avec un musulman, je dis que mon mari il est corse. Et la première des choses qu'ils me disent, est-ce qu'il est converti à l'islam, est-ce qu'il shahed? Ça veut dire est-ce que...
La profession de foi.
Voilà. J'ai dit non, pourquoi? Il me dit oui, il faut parce que Allah a dit ça et tout, quoi. Donc moi je trouve ça débile, hein.
Est-ce qu'il a là le bébé là? Il était calme et d'un coup là. Tout à l'heure tu voulais pas parler dans le micro et.
Il veut le sein.
Qu'est-ce qu'il y a?
Il veut manger.
Qu'est-ce qu'il y a maintenant?
Allez Antoine.
Oh il me tient la langue lui. Oh. Hey.
Antoine.
C'est quoi là le. Il a une petite main là sur le t-shirt.
C'est une main en corail, c'est pour enlever le mauvais œil quoi.
C'est pas une main de Fatma. Ah c'est un point comme un point serré.
Voilà oui. C'est contre le mauvais œil. En Corse, hein. Voilà, chaque truc a sa tradition.
Dans une vieille ruelle, tout près de la citadelle d'Ajaccio, dans la nuit toujours si belle, on entend des ritournelles, des bravos. Les touristes en balade écoutent les sérénades du pays. Et plus rien n'a d'importance quand une ancienne romance vous séduit. Ayachou, ayachou, au son des guitares viennent filles et garçons. Ayachou, ayachou, et chacun y chante sa chanson.
Charles Martel, si tu voyais la gosse qui s'en ouvrait. Charles Martel, tu dirais la France au français.
Oui. Ami Corse, vous n'avez pas le monopole de la connerie raciste. La France aux Français, l'Irlande aux Irlandais, tous les pays du monde, la Russie aux Russes, la Chine aux Chinois, dans tous les pays où nous sommes allés depuis 15 ans, on a retrouvé ce degré zéro de l'imbécilité et de la haine. Reste évidemment à essayer, on n'a plus que ça, à trouver les causes de cette forme terrible de l'expression des hommes, parce que c'est quand même une expression, et il y a quelque chose derrière, il y a des raisons à ça, il y a des causes à ça. Il faut bien qu'il y ait des causes à ça, et il faut bien que nous trouvions les causes sur lesquelles nous pourrions agir. On les connaît, et on sait comment agir.
On a descendu en voiture, les graffitis, les attentats, je veux dire, les mosquées plastiquées, les locaux associatifs.
Ah, les lieux de prière, parce qu'il n'y a pas une mosquée en Corse.
Les lieux de prière qui sont victimes d'attentats, je veux dire, ça ne devrait pas se passer. Bon, malheureusement, ça se passe. Donc c'est aussi à nous, parce que je suis bien placé, policier, de faire en sorte d'interpeller ces gens-là et puis de les mettre à disposition de la justice. Mmh. Je pense que la police fait bien son travail, mais en général, et que... À un moment donné, ces auteurs-là, ils finiront en prison. Je crois que c'est quelques éléments qui essaient d'agiter, si tu veux, pour faire en sorte que cette écorce devienne raciste. Mais cette écorce, elle est pas raciste. Et c'est pas quelques individus qui vont dicter, si tu veux, l'identité corse ou la façon d'être corse aux gens. Ça veut dire quoi, un rabifort? Mais de qui on parle? Et qui est corse, qui ne l'est pas? Ces arabes-là qui sont nés en Corse... Est-ce qu'ils sont pas corses? Le bouc émissaire, c'est souvent l'immigré, c'est souvent l'ouvrier, comme tu l'as vu au cours de l'histoire. Et je crois que face au malaise social
de la société en Corse, parce qu'il y a vraiment un malaise social. Il y a des crispations sociales avant tout, avant tout. C'est-à-dire le chômage, les inégalités sociales, le problème du logement. Ça, ce sont des vrais problèmes. Et finalement, c'est ces faits-là, ces faits sociaux, qui alimentent un racisme, qui est avant tout un racisme social. Je veux dire, t'as des quartiers finalement très chics, où il y a des gens qui sont millionnaires, et puis t'as des gens qui ont pas de quoi manger. Il y a les restaurants du cœur en Corse. Faut pas croire que ça, c'est la carte postale que tu vois. Mais il y a des réelles difficultés sociales en Corse. La Corse, c'est une région qui est effondrée au niveau social. La vie est de 15 à 20% plus chère que sur le continent. Je sais pas si tu imagines. Dire que vivre en Corse, c'est un luxe. L'essence est beaucoup plus chère. La bouffe est beaucoup plus chère. Les salaires sont 15% plus bas que sur le continent. Ça veut dire qu'actuellement, la population corse, elle est prise en otage par le patronat. Qui fait que les gens, ils sont complètement exploités. Donc, les ouvriers, les classes moyennes ont tendance à penser que l'arabe, le bouc émissaire, c'est lui le coupable, c'est lui qu'il faut monter. Et ça, c'est des discours fascisants. En améliorant les conditions de vie des habitants, en faisant en Corse en sorte, si tu veux, que la vie en Corse ne soit pas chère, que les salaires soient supérieurs à ceux qui sont actuellement, parce qu'actuellement, les salaires dans le privé en Corse, c'est le SMIC, faut pas se leurrer. Et faisant en sorte aussi que le code du travail soit appliqué, parce que le code du travail, bien souvent en Corse, il n'est pas forcément appliqué. Les patrons en Corse, ils déclarent pas toujours les gens, ils utilisent des populations clandestines parce que si demain les Maghrébins quittent la Corse, la société corse, elle est foutue. Parce que les trois quarts des cuisiniers dans les restaurants en Corse sont des Maghrébins. Les trois quarts des gens qui ramassent les poubelles sont des Maghrébins. Si demain les Maghrébins quittent la Corse, le popolo corso est morto. Ça veut dire le peuple corse est mort. Donc, je veux dire, les Maghrébins font partie intégrante notre société. Sans eux, cette Corse n'a pas d'avenir. Mais c'est pas les utiliser en sous-citoyens, si tu veux, dans le sens où tu les utilises
juste pour les poubelles,
dans les restaurants au black, à pas les déclarer ou à faire des salaires de misère.
Quelle solidarité envers les victimes de ces actes racistes et de cette vague de racisme en Corse. On pourrait penser que ceux qui ailleurs sont victimes du racisme pourraient exprimer leur solidarité. C'est le cas en tout cas de l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, qui a émis un communiqué pour exprimer sa solidarité à l'égard des personnes d'origine arabo-musulmane spécifiquement visées par les attaques à caractère raciste ces derniers mois sur l'île de Beauté. Et l'Union juive française pour la paix, au passage, évoque un personnage qui s'appelle Jérôme Carcopino et qui a donné son nom, ou dont on a pris le nom, pour baptiser le musée départemental d'archéologie d'Aléria. Or, ce Jérôme Carcopino fut secrétaire d'État à l'éducation nationale du gouvernement de Vichy en 1941 et 1942 et porte à ce titre une responsabilité indiscutable dans la mise en place de l'exclusion des Juifs de l'école et de l'université. Voilà pourquoi l'Union juive française pour la paix appuie ceux qui, en Corse, ne manquent pas de s'insurger contre le nom de ce centre archéologique. On va retrouver Nicole Vincenzini, qu'on a rencontré hier à Ajaccio, dans son bunker, dans le bunker d'Awa Basta, c'est Awa Basta, il faut dire, hein, ce mouvement qui lutte contre le racisme dans l'île de Beauté. Hier, elle nous a expliqué, donné des raisons historiques, anciennes, en évoquant des contentieux anciens liés à l'histoire, qui peuvent expliquer cette vague de racisme aujourd'hui. Et elle évoque pour nous ce qu'est l'histoire de cette immigration maghrébine.
L'immigration maghrébine, elle est récente. Elle a commencé avec le rapatriement des pieds noirs d'Algérie. Donc, c'était des gros colons en Algérie qui ont refait des domaines importants. Ils ont fait venir des centaines de Marocains. Pas question de faire venir des Algériens, évidemment. Et puis, les Marocains ont une bonne réputation de travailleurs de la terre, de l'agriculture en milieu méditerranéen. Donc, ils sont venus et ils ont eu d'abord un habitat de plantation, complètement, donc on ne les voyait pas beaucoup. Ils ont fait venir leur famille, après avec le regroupement familial. Ils se sont quelquefois mariés, etc. Donc, les choses ont changé. Ils ont commencé à venir dans les agglomérations. Puis, il y a eu des enfants, il y a eu, la deuxième génération. Maintenant, les petits-enfants.
Vous avez connaissance des chiffres, par exemple, dans les années 60 et maintenant ?
Vous savez, j'ai pas tous les chiffres de l'INSEE. Je sais qu'en 75, il y avait plus de Maghrébins qu'il n'y en a maintenant. Mais, par contre, le chiffre global des étrangers, toute origine confondue, hein, y compris européens, ça fait dans les 26 000 selon l'INSEE. 26 000, on pourrait ajouter dans les 2000, entre les saisonniers et les irréguliers qui passent. C'est moins de 30 000. Alors, vous voyez des inscriptions maintenant, 80 000 Arabes menacent le peuple corse, et des choses comme ça. Enfin.
Et sur les 30 000 étrangers, il y a...
Les Marocains sont plus de la moitié. Après, la deuxième, ce sont, je crois, les Italiens, et puis les Portugais, les Tunisiens, et assez peu d'Algériens.
77 ans, elle a Noël Vincenzini, et elle a un souffle particulier. Elle a une compétence très précise sur ce qui l'entoure, sur son pays, sur ce qui s'y passe, et un engagement qui a l'air d'être inusable. D'où vient le souffle de cette femme?
La première fois que j'ai quitté un village, c'était pour passer l'examen des bourses à Bastia. J'avais 11 ans et j'avais jamais vu une ville. C'était donc en 38. J'appartiens à une famille de 9 enfants, famille modeste. C'était un problème pour mes parents que j'aille à Bastia à continuer mes études. Et j'avais une tante à Montpellier qui me disait, faites-la venir là ici, elle est douée. Bon. Donc en pleine guerre, en 41, mes parents m'envoient à Montpellier. C'était 3 ans après, j'étais à Ravensbrück. C'est-à-dire que il y avait à la maison, il y avait un bain de comment dirais-je, on suivait Radio Londres, on était, il y avait un bain résistant, quoi. Et donc, moi, je me suis trouvée tout naturellement au lycée, malgré que ma tante et son mari soient vichistes et pétainistes. Oui, oui. J'étais la clandestine dans la maison. Et ils m'ont pas impressionnée. Donc, au lycée, on a commencé à faire des choses, et puis on a été contacté par la résistance organisée, et puis donc, j'ai fait beaucoup de choses.
À quel âge?
On a commencé à faire de la résistance comme ça spontanée à 15 ans. Et puis, à 16 ans, j'étais dans la résistance organisée. J'étais courrier. Et à 17 ans, j'ai été déportée. J'ai fini de grandir en camp de concentration. J'ai grandi de 5 cm. On m'avait toisé au lycée peu de temps avant. J'ai grandi de 5 cm à Ravensbrück. À 18 ans, j'étais ancien combattant. Et voilà, c'est l'histoire de cette époque. Et j'ai appris la solidarité parce qu'au fond de tout ce qu'on peut imaginer, c'est inimaginable d'ailleurs, ce qui se passait dans les camps, il y avait quand même, c'est ça, cette petite flamme, malgré toutes les conditions qui étaient faites pour réduire les êtres humains à l'état animal et avec des souffrances infinies, il y avait cette petite flamme de la solidarité. Et j'ai appris, ça m'est resté pour la vie, parce que j'ai su que quelles que soient les conditions, l'homme, il y a quelque chose d'invincible chez l'être humain. Tant qu'il y a ça, disons que l'espèce humaine est sauvée, est sauvable. Ça, c'est la leçon essentielle. Si je suis en vie, moi, c'est grâce à mes copines, aux femmes du camp. Parce que j'étais dans un sale état. Et je faisais 28 kilos pour 1m73. J'étais un squelette. J'avais une tête de mort. J'ai fait peur au premier soldat russe qui m'a vu, il a eu peur. Franchement. Quand j'ai vu l'épouvante sur ce visage, et je me suis dit, là, j'ai réalisé à quoi je ressemblais. Tous ces gens qui sont passés par les crématoires, qui ont été assassinés, uniquement pour des causes raciales. Ce qui s'est passé avec les Juifs, les Tziganes, ça peut se passer avec les Arabes, ça peut se passer avec n'importe qui, ça peut se passer avec n'importe qui. Il suffit qu'à un moment donné, il y a une folie, et qu'on désigne un bouc émissaire et que ça galope. Ravensbrück était un camp-mère, il y avait un petit camp au nord-est, Ravensbrück était déjà au nord-est de Berlin. Et nous, on était au nord-est de Ravensbrück, en pleine Prusse orientale, pas loin de la frontière polonaise et pas loin de des bords de la Baltique. Il y a eu un hiver très froid en 44-45 et on avait juste cette petite espèce de tissu ersatz qu'on avait. On n'avait pas de sur la peau. Et on devait rester le matin 2 heures immobiles sur le terre-plein du camp et 2 heures le soir pour les fameux appels où ils n'arrêtaient pas de compter. C'était une espèce de folie de l'ordre. Il fallait compter. Savoir qui était mort, qui n'était pas, etc. Bon. On pensait que la faim, c'était la chose la plus terrible, et quand on a connu ce froid-là, c'était pire que la faim. C'était vraiment une souffrance physique énorme. Énorme. J'étais extrêmement... Je faisais partie de ceux qui étaient un cadavre ambulant, quoi. Et puis, alors il fallait me planquer, parce qu'on n'avait pas le droit de vivre sans travailler. On vous liquidait. Donc, j'ai été protégée aussi, pour m'empêcher d'être liquidée. Et il y avait ce qu'on appelait les blocovas, des responsables de bloc, qui étaient souvent des déportés, qui avaient des responsabilités au niveau du bloc, et qui étaient, donc qui devaient fatalement collaborer avec les SS dans l'organisation de la vie du camp. Et j'ai été protégée une fois par une blocova yougoslave. Alors, mais elle pouvait pas planquer grand monde, hein. C'est en planquer un ou deux maximum. Mais après, c'était par une blocova polonaise. Donc, grâce à la solidarité et à l'affection et on peut parler d'amour dans ces cas-là, de ces femmes les unes pour les autres, enfin puis c'était une façon de dire on nous aurait pas, on est quand même plus fort que vous, on peut on nous aurait pas jusqu'au bout, on est capable de faire ça et on peut quelquefois arriver à sauver quelqu'un. C'était important aussi.
Va bientôt se lever sur la baie de Calvi. Je lève mon verre, le cœur. Frères, aux amis de Tao, vivez heureux aujourd'hui, demain il sera trop tard. Mon cœur se rappelle, chanter Mirekati Tao Bi Amanta.
Chacun sa carte postale et ses clichés. Ça, c'est ma carte postale et mon cliché de Calvi. Merci à Noël Vincenzini pour cette petite flamme. Merci à Marc et à Samira. Merci à Virginie et Jamel Zeroual. Gilles de Bastia, pardon, mais on reviendra bientôt et on fera, je te promets, d'autres émissions sur ton île. C'était un reportage de Dila Tebi et samedi 27, donc à 14h à Calvi devant la sous-préfecture, manif organisée contre les actes de racisme perpétrés en Corse. Plus d'informations sont à votre disposition sur le site de la base, si j'y suis, en allant sur franceinter.com, franceinter tout attaché, hein, .com. Technique aujourd'hui Sandrine Laurent et Philippe Duclos, Yann Chouquet et les musiques, le montage c'est Raphaël Moutarde. Assistante Pascal Pascariello, le répondeur c'est Christophe Imbert et le numéro du répondeur c'est le 01 56 40 37 37 et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. Vous allez avoir droit à 36 secondes de pub, après quoi vous retrouverez Charivari avec Frédéric Bonneau et nous pour la base j'y suis, on se retrouve demain à 17h. Salut.